Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous mensuel du premier mardi consacré à un débat. En ce mardi 4 mars 2014, qui est aussi le mardi gras, nous voici donc à la veille de notre entrée en carême. Temps spirituel fort de renouveau, de réengagement, et non de tristesse, d'ennui et de morosité. L'exhortation apostolique du pape François nous ramène justement à la joie de l'Évangile. Le ton de cette lettre est celui de l'enthousiasme, du désir d'aller au plus vite, rejoindre l'Esprit du Christ ressuscité à l'œuvre dans le monde. Sortons, sortons, dit-il, pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Alors, nous avons voulu prendre le temps ensemble de nous laisser bousculer par l'exhortation que le pape François nous adresse. Et pour ne pas nous en tenir à des considérations générales, à des grandes orientations, notre rencontre veut répondre à l'une des invitations majeures que le pape adresse aux communautés chrétiennes, car c'est bien d'abord à elles, c'est-à-dire à nous, que son exhortation est destinée. J'invite les communautés à compléter et à enrichir les perspectives, celles qu'il a déjà relevées, à partir de la conscience des défis qui leur sont propres et de ceux qui leur sont proches. Autrement dit, comment, ici et maintenant, à La Réunion, dans notre diocèse, pouvons-nous nous mettre davantage en ordre de bataille pour répandre encore plus la joie de l'Évangile? Quelle décision, quelle mise en œuvre notre réponse à l'invitation du pape peut-elle contenir? C'est en présence de notre évêque, que je salue, que nous avons voulu en débattre. D'où déjà un grand merci à Monseigneur Gilbert Aubry d'être parmi nous pour donner toute sa dimension diocésaine à notre échange. Un grand merci aussi et par avance, parce que nous lui imposons, comme à nous tous d'ailleurs, un exercice difficile. L'exhortation apostolique du pape François est très riche, ouverte sur beaucoup de réalités. Impossible, bien sûr, en 1h30 de tout couvrir, et ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il a donc fallu sélectionner quelques thèmes. Nous en avons retenu 5. Et il a fallu déterminer aussi une manière de procéder, en estimant que nous ne pouvons pas rester plus d'un quart d'heure sur chaque thème. Alors voilà comment nous allons procéder, avec une rigueur de métronome, faites-moi confiance. Chaque thème sera introduit par Françoise et moi en 2-3 minutes, puis l'évêque disposera de 3-4 minutes pour donner son éclairage, après quoi il nous restera entre 8 et 10 minutes pour échanger à partir de vos questions. Des questions, et vous l'avez déjà compris, qui devront donc être courtes, précises. Et je pense que sur chaque thème, ça se limitera à 3, 4, 5 questions, peut-être. Bon, on devrait y arriver. Accrochez vos ceintures, départ imminent. Auparavant, cependant, et pour nous préparer, j'ai demandé à Mgr Aubry de nous situer rapidement l'exhortation du pape, en particulier dans le contexte de la nouvelle évangélisation, et puis de la manière dont il a envie de nous l'introduire. Je lui cède donc immédiatement la parole.
Merci Stéphane, et heureux d'être avec vous et de vous saluer. Le pape François, dans l'introduction de la joie de l'Évangile, cette exhortation que nous allons essayer de survoler et puis peut-être d'avoir envie de lire ensuite, il écrit « J'ai accepté avec plaisir l'invitation des pères synodaux à rédiger la présente exhortation. Il s'agit pour le pape de reprendre les travaux du synode du 7 au 28 octobre 2012 en sa 13e Assemblée générale ordinaire à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint dit aux Églises et puis discerner les signes des temps afin que se développe, je cite, « la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ». Le pape François recueille donc la richesse de ce que vit l'Église et il recueille la richesse des travaux du synode. Il continue dans son introduction, je cite, « J'ai aussi consulté différentes personnes et je compte, entre autres, exprimer les préoccupations qui m'habitent en ce moment concret de l'œuvre évangélisatrice de l'Église. » Je continue, citation du pape, « Je ne crois pas non plus qu'on doive attendre du magistère papal une parole définitive ou complète sur toutes les questions qui concernent l'Église et le monde. » Il n'est pas opportun que le pape remplace les épiscopats locaux dans le discernement de toutes les problématiques qui se présentent sur leur territoire. En ce sens, je sens la nécessité de progresser dans une décentralisation salutaire. Parole du pape François. Notons que le pape François articule le magistère papal et la portée que pourraient prendre des décisions de telle ou telle conférence épiscopale à travers le monde. D'emblée, le pape François précise que la nouvelle évangélisation est pour la transmission de la foi chrétienne. Elle concerne, alors il y a trois points. Premier point, c'est la pastorale ordinaire pour embrasser le cœur des fidèles qui fréquentent régulièrement la communauté, fidèles qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de la vie éternelle. Pastorale ordinaire. Et là-dedans, il dit aussi, cette pastorale concerne aussi les fidèles qui conservent une foi catholique intense et sincère en l'exprimant de diverses manières, bien qu'ils ne participent pas fréquemment au culte. Premier point, transmission de la foi pastorale ordinaire. Deuxième point, la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, parole du pape, concerne en second lieu des personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas les exigences du baptême, qui n'ont pas une appartenance du cœur à l'Église, et ne font plus l'expérience de la consolation de la foi. L'Église en mère toujours attentive s'engage pour qu'elles vivent une conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s'engager avec l'Évangile. Troisième point, la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, parole du pape, est essentiellement lié à la proclamation de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou l'ont toujours refusé. Beaucoup d'entre eux cherchent Dieu discrètement, poussés par la nostalgie de son visage, même dans les pays d'ancienne tradition chrétienne. Le pape continue, « Tous ont le droit de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne. » Non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un bouquet désirable. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Parole du pape François. Ceci étant précisé, le pape François s'appuie sur la doctrine de la constitution dogmatique Lumen Gentium, lumière des nations, mystère de l'Église, pour s'arrêter sur les questions suivantes, et c'est lui-même qui les énumère dans l'ordre. La référence de l'Église en sortie, la réforme de l'Église en sortie missionnaire. Les tentations des agents pastoraux. L'Église, comme la totalité du peuple de Dieu qui évangélise, l'homélie et sa préparation, l'insertion sociale des pauvres, la paix et le dialogue social, les motivations spirituelles pour la tâche missionnaire. Ces points-là qui lui tiennent à cœur, le pape François va les recouper, les mixer, les ordonner en 5 chapitres. Premier chapitre, la transformation missionnaire de l'Église. Deuxième, dans la crise de l'engagement communautaire. Troisième, l'annonce de l'Évangile. Quatrième, la dimension sociale de l'évangélisation. Et cinquième chapitre, évangélisateur avec l'esprit. Et à travers le style et l'écriture, toute la réflexion du pape est irriguée par la parole de Dieu. Les citations sont nombreuses, viennent éclairer les analyses et l'articulation des divers chapitres. Nous sentons un homme pétri de l'écriture. Et le pape François nous dit que, citation, il est indispensable que l'écriture, que la parole devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. De nombreuses références sont faites au Concile Vatican II, à Evangelii Nuntiandi, l'annonce de l'Évangile, à Christi Fideles Laici, et là-dessus on n'a pas fait mieux du point de vue réflexion, référence aux exhortations apostoliques de Jean-Paul II suite aux divers synodes, à des textes de différentes conférences épiscopales, aux documents de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes, ce fameux document dit d'Imparricida, dont le cardinal Bergoglio a été le principal rédacteur. Et par le fait même, la christianisation qui était partie d'Europe vers l'Amérique du Sud revient au point de départ pour contribuer à mieux évangéliser le monde par la voix et les gestes du 265e successeur de Pierre. Et n'oublions pas que lors des JMJ de Rio, le pape François est allé confier son pontificat à la Vierge Noire d'Aparecida. Ce lieu de mémoire de l'esclavage des Noirs est le plus grand sanctuaire marial au monde. Toute la vie des peuples latino-américains habite ce pape créole. Avec un brassage de culture, d'imaginaire, de rythmes musicaux qui donne à sa personnalité cette vivacité et cette expression orale imagée qui ne s'embarrasse pas de tournure diplomatique et qui donne justement un langage paradoxal qu'il faut toujours situer dans le contexte général. Autrement, on risque de faire dire au pape ce qu'il ne dit pas. Alors, heureux d'être avec vous, je précise qu'on n'est pas là pour prendre des décisions, mais qu'on est là pour échanger et pour réfléchir. Merci.
Merci, Monseigneur, il n'y a aucune ambiguïté. Nous ne sommes pas réunis en synode. Simplement, eh bien, merci parce que nous sommes dans le tempo. Nous allons donc commencer nos thèmes. Juste une petite précision, j'en ai annoncé 5. Les deux premiers, on va les mettre sous la catégorie un peu les fondamentaux, deux fondamentaux. Les deux suivants, eh bien, sur quoi prendre appui pour mettre en œuvre ces fondamentaux. Et puis un dernier, une attention un peu plus générale et on sera davantage dans la relation au monde, partenariat avec le monde. Premier thème.
Eh bien, le premier thème, c'est le titre de cette soirée débat. Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est qu'une église qui sort ? C'est une église qui recherche la proximité, qui va au contact, qui vit la vie même de celles et ceux qu'elle veut toucher. Je cite le numéro 24 du document. L'église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis et celles-ci écoutent leur voix. La fameuse odeur des brebis, on avait déjà entendu ça quelque part. Cette exhortation à la conversion missionnaire vaut pour les personnes comme pour les communautés. Elle vaut pour les paroisses comme pour les autres institutions ecclésiales, communautés, mouvements, autres formes d'associations. Et elle vaut pour chaque église particulière sous la conduite de son évêque. Notez que cette invitation à sortir est à entendre comme une urgence. Il ne s'agit pas d'une option parmi d'autres. Et le pape y revient à de nombreuses reprises avec beaucoup d'insistance. Par exemple, il est vital aujourd'hui que l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous. C'est le numéro 23. Ou encore au numéro 25. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission. Un état permanent de mission. Le texte invite aussi à bien repérer ce qui peut freiner cette Église qui sort. Et il cite par exemple un certain égoïsme pour s'engager, ou des motivations qui ne sont pas toujours les bonnes, ou encore le sentiment d'échec et le pessimisme. Et ceci m'amène à vous poser, Monseigneur, et à poser aussi à vous toutes et à vous tous, les trois questions suivantes. Comment rejoindre ces baptisés, de plus en plus nombreux, qui n'ont plus une appartenance de cœur à l'Église, comme vous disiez tout à l'heure? Je traduis ce que l'on voit, ce que l'on voit qu'au mariage et aux enterrements, en gros ça doit être à peu près ça. Que pouvons-nous initier pour les rejoindre davantage? Comment nous y prendre pour avoir l'odeur des brebis? Et cette nécessité d'aller au contact, selon vous, elle concerne plutôt les laïcs ou plutôt les clercs? Ou les deux? Deuxième question? Il y en a trois. Deuxième question. L'exhortation pointe à plusieurs reprises le côté administratif de l'institution Église. Je cite les numéros 46-47. L'Église en sortie est une Église aux portes ouvertes. Un des signes de cette ouverture est d'avoir partout des églises avec les portes ouvertes. Ben oui, ça devrait aller de soi, mais ça ne l'est peut-être pas partout. Au numéro 27, le pape imagine un choix missionnaire capable de transformer les habitudes, les styles, les horaires, le langage. Et il rappelle en particulier que l'Église n'est pas une douane à propos de l'accès aux sacrements. On pense ici aux demandes de baptême par des parents non pratiquants, à des situations matrimoniales complexes. Et on est là tout à fait dans le concret. Alors tout aussi concrètement, qu'est-ce qui est envisageable rapidement, facilement dans notre diocèse? Autrement dit, si vous deviez donner un mot d'ordre d'ici quelques semaines, quelle serait votre priorité? Ouvrir les portes des églises, renouveler les horaires de messe? Dire partout la messe en créole ou autre chose encore? Et puis ma dernière question, très simple. Selon vous, quels sont les freins principaux à desserrer dans notre diocèse?
Bon, c'est nous qui commençons à ne pas respecter le temps. Monseigneur.
Chaque question mériterait une session. Bon. Sortons. Mais il faut comprendre la pensée du pape. Puisqu'il parle de communauté évangélisatrice. C'est toute la communauté qui doit évangéliser. Et la communauté, pour reprendre la première question, c'est les laïcs, c'est les hommes, les femmes, les enfants, ceux de divers âges, c'est les religieux, les religieuses, les consacrés, les diacres, c'est les chefs d'entreprise, c'est les agriculteurs, c'est ceux qui sont dans les champs avec les vaches, c'est ceux qui sont dans les bureaux, au volant des camions, mais on est tout le temps sortis. Tout le temps on est sortis. Parce que les baptisés sont partout. Et partout où ils sont, c'est l'Église. Donc ce qui nous manque, c'est cette prise de conscience que nous sommes l'Église à partir de la grâce de notre baptême. Et dans le diocèse, on a insisté et nous insistons justement là-dessus depuis plusieurs années et aujourd'hui encore, plus que jamais, il est important qu'il y ait des conseils de pastoral authentiques dans toutes les paroisses. C'est-à-dire que le pasteur est le pasteur, mais que c'est tous les baptisés ensemble qui sont responsables de la mission de l'Église. Je ne dis pas de l'Église, je dis de la mission de l'Église. Donc, c'est pour répondre à ce point-là. Est-ce que c'est la question? Est-ce que c'est les clercs? Est-ce que c'est les laïcs? Et je ne pense pas... ou plutôt, je pose la question, et si vous avez lu l'exhortation, je ne pense pas que tout le monde l'ait lu. Je me pose une question lorsqu'il dit « Les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis, et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. » Est-ce qu'il parle des évangélisateurs, seulement les prêtres qui ont l'odeur des brebis? Ou bien est-ce qu'il parle de tout le monde, puisqu'il parle de la communauté évangélisatrice? Et après, il dit, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. Mais je veux remarquer que nous sommes dans un régime de laïcité, ici, à La Réunion. Et que par conséquent, si c'est toute la communauté qui doit s'engager de manière structurée dans un monde laïque, les contextes sont différents. D'où cette question d'accompagnement. Et être avec me paraît la nécessité fondamentale. Et les portes ouvertes pour moi, c'est les bâtiments, évidemment. Et plus les bâtiments seront ouverts, mieux ça vaudra. Mais les portes ouvertes pour moi, c'est cette présence des chrétiens dans le monde où ils vivent. Et dans une société laïque, faire passer le ferment de l'Évangile à travers tout ce qui se vit. Troisième question, c'était... quoi ? Quel frein ? Le frein, c'est que... le frein, c'est le manque d'accueil. Et le manque d'accueil, je dirais, à tous les niveaux. En même temps, c'est une mentalité générale dans laquelle nous baignons. On parle toujours de droit, on consomme, mais on ne produit pas. Et souvent, je dis, il ne faut pas consommer du religieux, il faut produire de la foi. Il faut rayonner la foi et il faut produire de la charité. Nous sommes renvoyés, chacun de nous, et moi aussi évêque, au plus profond de la foi, c'est-à-dire de la confiance en Dieu et de la confiance dans les autres. Après, il y a d'autres questions qui viennent.
Bien, nous tenons le tempo, il nous reste 5 minutes. On ne va pas traîner au départ, comme ça on va prendre le rythme et ça viendra plus facilement après. Donc profitez, il y a quand même 5 minutes, le temps de poser 2 questions. C'est trop tôt, c'est pas encore chaud encore.
On a l'impression que c'est une des recommandations qui s'adresse à une minorité de baptisés, de croyants, qui ignorent l'environnement, la réalité sur le plan économique, sur le plan de toutes les lois qu'on sort en ce moment concernant la fin de vie, la procréation, etc., etc., gestation pour autrui. Et tout ça. Donc, comment cadrer ça avec l'Évangile et la joie de l'Évangile?
Merci. Éventuellement, ça peut être une réaction. Hein, quand je dis question, qu'est-ce que ça provoque en nous, ce que nous avons déjà entendu?
Bonsoir. L'arrivée de François a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, une rencontre entre ce que j'attendais et ce qui est arrivé. L'Église communautaire, mais l'Église aussi évangélisateur, c'est-à-dire chaque chrétien, dort au milieu du monde. Et moi, qui est une action dans le monde, je suis entouré d'un tas de gens avec toutes sortes d'idéologies qui, souvent avec beaucoup d'hypocrisie, viennent me voir pour me dire « tout ce que tu fais, très bien, il faudrait quand même aller plus loin ». Ça ne me ferme pas les yeux parce que je vois qu'à côté, cette affaire et pour essayer de m'apaiser, pour faire autre chose à côté. Mais, et là, c'est ce que je veux dire, je ne trouve pas autour de moi des chrétiens pour me dire, Paul, allons faire le chemin ensemble. Il y a une peur de la politique. C'est des voleurs, c'est des escrocs. Il faut s'en méfier. Et je suis seul. Je profite de cette rencontre de ce soir pour faire appel à mes frères chrétiens. Lorsque nous sommes dans l'église, nous prenons la grâce. Et lorsque nous sortons de l'église, il faut la distribuer dans le monde. Et là, si nous ne sommes pas ensemble, nous n'allons pas être le levain qui transformera notre société.
Merci. Ah pardon, excuse-moi Thérèse.
Si. Oui, c'est un peu une réflexion parce que c'est vrai que j'ai entendu le message « sortons, sortons pour évangéliser ». Et moi, je me pose cette question, je me suis toujours posé cette question. Quelquefois, même au sein de nos églises, nous n'avons pas cette envie ou de parler, de discuter avec les autres. Je prends par exemple un exemple, je ne sais pas si c'est clair, un exemple par exemple, je parle du catéchisme, des enfants qui sont en catéchisme par exemple. Je ne trouve pas personnellement, en tout cas peut-être dans certaines paroisses, qu'on fasse vraiment un effort particulier pour que les parents de ces enfants qui viennent au catéchisme soient vraiment, mobilisés et vraiment soient suivis. On fait des réunions, mais ceux qui viennent, envie de venir, viennent. Ceux qui n'ont pas envie de venir, ne viennent pas. Et moi, je me dis que si on met son enfant en catéchisme, c'est qu'on a envie qu'il soit chrétien, qu'on doit faire l'effort nécessaire. Je trouve que là, il y a quelque chose qui manque. Alors, sortons, oui, il faut sortir. Mais en même temps, ce que nous avons apporté de nous, est-ce que nous le faisons suffisamment bien?
Chacun parle d'où il est et selon ce qu'il vit. Et je crois que c'est important d'accueillir ce qui se dit. Et les deux questions, les trois réflexions qui viennent d'être faites rejoignent les préoccupations du pape, c'est-à-dire cette présence agissante là où nous nous trouvons. Chacun de nous selon notre état de vie. Et pour les deux dernières réflexions, c'est le chapitre 2, c'est la crise de l'engagement et la crise de l'engagement communautaire. La crise de l'engagement d'abord et de l'engagement communautaire ensuite. De l'engagement, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de désespérance, de désespoir, et nous sommes dans une île où tout le monde connaît tout le monde, et regardez ce qui se passe, bon, c'est dans les journaux, à la télévision, à la radio, on présente les candidats aux élections municipales, c'est très bien, mais regardez autour de vous, dans un quartier ou dans un immeuble, les gens ne se disent pas pour qui ils sont, sauf pour les militants. Parce que on est dépendant de la mairie, on est dépendant de telle ou telle association. Nous sommes dans une île. Par conséquent, comme Paul disait, il nous faut sortir et sortir de la peur. Premier point. Deuxième point, engagement communautaire. L'engagement communautaire, il va apparaître, il devrait apparaître d'abord dans le souffle même, dans la communauté qui se retrouve, mais il est difficile d'avoir un engagement communautaire sur tel ou tel point de société parfois. Donc, ce sont davantage les membres qui vont s'engager et pas nécessairement l'ensemble de l'Église sur tel ou tel point. Et il y a des associations ou des groupes ou des institutions qui, alors, vont pouvoir porter avec un souffle spirituel telle ou telle particularité. Je pense à Auteuil, Océan Indien, je pense au Secours catholique, je pense au MTKR, les travailleurs chrétiens dans les milieux agricoles, je pense aux associations familiales catholiques. Et il est vrai que toutes ces instances ont une dimension politique. Mais les choix politiques sont ouverts et nous n'avons pas à diaboliser la fonction politique. Bien au contraire, nous avons d'abord à valoriser notre communauté de destin et à valoriser la fonction politique.
Merci. Nous engageons le deuxième thème. Le pape nous dit au numéro 37, les œuvres d'amour envers le prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce intérieure de l'esprit. Et il cite la lettre de saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 6, la foi opérant par la charité. L'insistance n'est pas en soi nouvelle. Et pourtant, la manière d'y revenir plusieurs fois manifeste l'urgence à vérifier les moyens que nous nous donnons pour vivre davantage ce rapport entre intériorité et extériorité de la foi. Le paragraphe le plus explicite est dans le dernier chapitre, au numéro 262. Je cite « Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l'engagement et à l'activité. » Et trois phrases plus loin, le pape François cite Jean-Paul II. « On doit repousser toute tentation d'une spiritualité intimiste et individualiste qui s'harmoniserait mal avec les exigences de la charité, pas plus qu'avec la logique de l'incarnation. » Alors on peut se demander si l'engouement de beaucoup de catholiques réunionnais pour les groupes de prière, pour les pèlerinages, et d'une manière générale pour toutes les formes de dévotion, eh bien, on pourrait être tenté de penser que cet engouement laisse penser que c'est plutôt du côté du lien entre prière et action qu'il s'agit d'aller vérifier ce qui se passe ou non. Autrement dit, est-ce que notre disposition à la prière, quelle qu'en soit la forme, engage un investissement conséquent dans l'annonce de l'Évangile, et pas seulement par la parole, mais par les actes? Faut-il imaginer, pour notre diocèse, une sensibilisation plus forte des baptisés autour de ce thème, et comme le dit la citation de Jean-Paul II, pour un approfondissement et une expérience plus forte du mystère de l'incarnation. Si oui, où la mettre en œuvre? Catéchèse, homélie, formation et sans doute d'autres lieux.
Partout. Il n'y a pas d'exclusivité. Partout. Et j'estime que l'Église à La Réunion est plus belle que ce que l'on peut penser d'elle. Et que l'Église à La Réunion, comme partout ailleurs, ne peut pas se ramener à une dynamique d'engagement, soit économique, soit politique, soit culturelle, soit sociale. Tous ces paramètres doivent être pris en considération. Et comme il est loin le temps où l'on opposait prière et action, où l'on opposait spiritualité et engagement. Aujourd'hui, ces questions sont dépassées, ou plutôt mieux articulée. Et s'il y a un peuple qui a un espace intérieur, c'est bien le peuple réunionnais. Et au début de mon épiscopat, et à juste raison, Témoignage chrétien avait souligné la place importante de la religion populaire, de la dimension des pèlerinages, de la dimension des rencontres où il y a des liens sociaux qui se tissent et où ce n'est pas de la superstition. Et que cette dimension populaire est enracinée dans une foi qui est traversée par un métissage. Mais ce métissage des imaginaires n'est pas de la superstition. Ce métissage des imaginaires constitue des liens sociaux fondamentaux et il est vrai que nous n'avons pas suffisamment de groupes d'action catholique, que nous n'avons pas suffisamment de groupes de réflexion ou de cercles de réflexion comme celui de ce soir où il y a un public généralement fidélisé. Mais si je prends le renouveau, si je prends les équipes du rosaire, si je prends la Légion de Marie, ces personnes sont branchées sur, ces groupes sont branchés sur les thèmes de pastoral qui sont dégagés chaque année dans la conférence épiscopale d'Océan Indien, à charge pour chaque diocèse de faire un éclairage et de vivre cette dimension à sa manière. Et c'est ainsi que, par exemple, maintenant, le renouveau, la Légion de Marie, le rosaire sont branchés sur la dimension que nous avons soulignée le 9 janvier de cette année, comment devenir témoin d'espérance. Non pas d'abord par une réflexion intellectuelle, mais par la présence. Et je suis frappé de voir comment les membres de ces groupes visitent les familles, vont dans les hôpitaux, participent à la visite des prisons, participent à la vie de leur communauté et sans faire grand bruit, ces visites de famille, ces visites de malades, ces visites de prisonniers. Je pense à ceux qui sont sur le terrain avec le MTKR, avec les milieux agricoles. Mon Dieu, quel travail ils ne font pas. Ils sont là dans une présence, dans une action avec les autres. Ils n'intellectualisent pas, mais ils vivent et ils participent avec les autres. Il y a quelque chose qui pousse dans notre peuple et que souvent les intellectuels ne voient pas, que les politiques ne voient pas. Et il y a une dimension populaire qui est une force, ne la méprisons pas.
Merci. Eh bien là, on a plus de temps que tout à l'heure. Donc si vous avez quelques réactions, quelques questions, nous pouvons y aller tranquillement. Il ne faudra pas que ça soit toujours les mêmes, lui, il ne sait pas prendre la parole.
Il a la parole, mais il y a des choses à dire. Le pape François disait, ne restez pas sur le balcon, descendez dans la rue. Et ensuite, quand on est dans la rue, il faut à un moment donné se fondre avec le peuple qui est dans la rue. Il faut qu'il n'y ait pas de signe distinctif. C'est écrit dessus, chrétien. Il faut qu'on soit frères au milieu des frères qui ne sont pas chrétiens. Et là, ce que nous portons, c'est un mot qui est vraiment dévalorisé, c'est le mot amour. Dans une société qui est dure, qui ne pardonne pas, qui demande des condamnations définitives de ceux qui ont fait une erreur ici ou là, qui traite les chômeurs de paresseux, qui ne voit que l'argent, qui est dure, une société qui est dure. Ce que nous, chrétiens, nous pouvons apporter, c'est l'amour du Christ, doux et humble. Et ça, il faut qu'en dehors de nos organisations, étiquetées, nous soyons fondus dans le peuple pour transformer cette société dure, cette société qui se prend pour Dieu, pour condamner définitivement les hommes, eh bien, il ne faut pas que nous participions à ça. Et c'est ce que nous dit François, sortons du balcon, descendons dans la rue, mêlons-nous à nos frères qui ne sont pas labellisés chrétiens pour refaire un monde marqué par l'évangile. C'est ça aussi la nouvelle évangélisation.
Merci. J'aime bien l'intervention de Paul Oirot, effectivement, parce que on est dans un monde où on est tenté par les médias, par l'actualité, d'avoir des solutions à tout. Et on entend bien les politiques, on entend à la radio tous les jours, ils sont interrogés par les auditeurs pour des questions de toutes sortes, et on attend d'eux qu'ils aient une solution à tout. Même le pape, le choix qu'il fait, c'est de renoncer à l'idée d'avoir des solutions à tout. Ça a été souligné par Mgr Aubry au début, et c'est peut-être un chemin pour nous aussi, et également pour comprendre l'action politique qu'on peut avoir dans une communauté chrétienne. Et je suis tenté de penser, je vous soumets cette observation, Monseigneur, je suis tenté de penser que le sens politique que l'on doit cultiver dans la communauté chrétienne, c'est pas celui qui permet d'avoir des solutions à tout, c'est celui qui permet d'être attentif à tout. Et je pense qu'on a besoin de développer entre nous cette culture de l'attention, être attentif à ceux qui vivent des choses qui peuvent être très éloignées de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on voudrait. Madame citait tout à l'heure les familles qui ont du mal à se mobiliser autour du catéchisme. Dans l'éducation, on connaît souvent ce problème-là, des familles qui sont peu présentes auprès des enfants qu'on éduque, qu'on accompagne, qu'on scolarise. Et en fait, si on pousse le bouchon jusqu'au bout, le pape nous dit, ceux-là sont donc à l'extérieur de notre cercle, ils en sont à la périphérie, et ce qu'il nous propose, c'est pas d'être meilleur pour les faire rentrer, c'est nous de sortir de nos cercles pour aller comprendre ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qui fait que les parents ne se mobilisent pas, se démobilisent, ne viennent pas aux réunions de parents, aux réunions de catéchisme, etc. Et cette attention est quelque chose qu'on a besoin de cultiver les uns avec les autres, parce que ce n'est pas si facile.
Parfois, s'il y a des questions ou des problèmes sur cette question de catéchèse, de catéchisme, ça peut venir aussi de personnes qui ont la bonne volonté, qui ne sont pas suffisamment formées ou pas suffisamment suivies du point de vue de l'accueil et de la pédagogie. Et nous avons développé un gros effort dans les sessions de formation de catéchistes au mois de janvier et au mois d'août. Mais ça se renouvelle, et ça se renouvelle souvent, on peut dire, à chaque rentrée de catéchisme. Si le prêtre lui-même n'est pas bien articulé avec son groupe de responsables de catéchèse, parfois il peut avoir de graves problèmes. D'où l'importance aussi, dans les responsabilités, d'avoir, un pilote et puis l'équipe et l'équipe avec le pilote. Ça me paraît important. Mais sur la question, il y a un point qui moi, me travaille depuis le début, quand on a fait les sessions, par exemple avec Sœur Marie Viviès, avant même mon épiscopat, les sessions Église-Monde. Et c'est dans ces sessions, on brisait la séparation Église-Monde. Et ne concevons pas l'Église lorsque la communauté est seulement rassemblée, mais il faut que tous les baptisés, tous les chrétiens prennent conscience que là où ils sont l'Église, ne ramenons pas l'Église au clergé, ne ramenons pas l'Église à l'évêque, l'Église au pape, d'ailleurs c'est ce que souligne le pape François, c'est tous ensemble. Et ça, c'est pas du tout évident. Et je rejoins la réflexion de Benoît. On n'est pas là pour apporter des réponses. On est là pour aider, pour cheminer avec. Et ce qui doit nous animer, c'est la spiritualité de la communion, et on n'en a jamais fini avec ça. C'est le regard du cœur, et du point de vue pas seulement psychologique et relationnel, fusionnel, c'est pas ça, mais c'est la dimension théologique, c'est la présence de Dieu dans les autres, et la présence de Dieu dans mon prochain. Le regard du cœur. Être attentif aux joies et aux peines. Et parfois, on est bloqué, on peut être attentif, mais on ne sait pas comment faire. Troisièmement, être positif. Et souvent, nous sommes à côté de la plaque parce que nous ne savons pas positiver. Et quatrièmement, donner sa place aux frères. Ça, c'est Jean-Paul II qui nous a donné ça dans son testament au début du nouveau millénaire. Et puis il y a les quatre piliers de la paix, ce qui a été souligné, l'amour, la recherche de la vérité, la recherche de la justice et la liberté. Ne pas instrumentaliser les personnes. Ça me paraît fondamental. Et il me semble que dans notre société réunionnaise, nous sommes fondus dans le peuple. Nous sommes fondus dans le peuple. Et que s'il n'y avait pas la présence des chrétiens dans des conseils municipaux, dans des syndicats, dans des groupes, dans des associations, il y a longtemps que l'île de la Réunion aurait explosé. Et je pense par exemple aussi à Stéphane, qui dans le Césaire, il est prêtre, mais il est avec d'autres qui ne sont pas prêtres et qui ne partagent pas nécessairement ses idées. Quand nous sommes dans le groupe de dialogue interreligieux, tout le monde ne pense pas pareil, mais on fait des dialogues et des dialogues importants, des ateliers spirituels, ça rebondit par ailleurs. Voilà. Donc, ne nous auto-flagellisons pas. Prenons les paroles du pape comme des incitations à aller plus loin, mais nous ne partons pas de zéro et voyons comment progresser.
Merci. Ça va, Laurie ? On attaque le troisième thème ? Donc les points d'appui, le premier.
Les points d'appui. Le premier point d'appui, le discernement. Je cite le numéro 30. Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours plus intense, généreuse et féconde, j'exhorte aussi chaque église particulière à entrer dans un processus résolu de discernement, de purification et de réforme. Il s'agira pour chacune d'entre elles, et là je passe au numéro 108, de compléter et enrichir ses perspectives à partir de la conscience des défis qui leur sont propres et de ceux qui leur sont proches. Une invitation donc à discerner pour que les deux fondamentaux dont nous parlions tout à l'heure soient vécus dans le mouvement de l'obéissance réelle de l'incarnation. La communauté dans son ensemble, là encore, est concernée par ce processus de discernement, avec un évêque qui est invité à faire preuve d'une souplesse extrême avec la grâce de Dieu, et je cite le numéro 31, « Parfois, il se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l'espérance du peuple. D'autres fois, il sera simplement au milieu de tous dans une proximité simple et miséricordieuse. Et en certaines circonstances, il devra marcher derrière le peuple pour aider ceux qui sont restés en arrière et surtout parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. » À partir de là, deux questions. La première, puisque toute la communauté est concernée, comment lui permettre d'entrer dans cette démarche de discernement ? Faut-il lancer une sorte de consultation à travers tous les groupes, toutes les équipes actives dans le diocèse ? Faut-il s'appuyer seulement sur les structures existantes ou inventer de nouveaux canaux pour ces processus participatifs ? Processus participatif est une expression du pape. Comment faire pour que les pratiquants irréguliers, mais pourtant attachés à l'Église, soient aussi partie prenante de cette démarche, pour que les personnes âgées et les jeunes y participent également ? Et puis, deuxième question, comment élargir cette réflexion aux autres diocèses de la Cédoie et à toute l'India-Océanie ? Le numéro 190 invite, je cite, « à élargir le regard et ouvrir les oreilles aux cris des autres peuples et des autres régions de notre pays, car nous avons besoin de grandir dans une solidarité qui doit permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin. »
Si nous sommes là ce soir en train de réfléchir, de partager... C'est parce que le diocèse de La Réunion a aussi cette grâce d'avoir des congrégations religieuses en transversalité. pas seulement dans le diocèse. On a, nous sommes là chez les jésuites, le pape est jésuite, ça fait une bonne relation interactive, et nous avons les spiritains, nous avons les carmes, nous avons les salétains. Nous avions démarré un séminaire ici à La Réunion en 1985, un séminaire de premier cycle qui est devenu ensuite, à la demande de Rome, le séminaire interdiocésain pour les diocèses d'océan Indien. Et la rencontre des évêques d'océan Indien a, je dirais, a précédé la création de la COI, de la Commission de l'océan Indien. Et à notre place, nous avons contribué à l'émergence de l'Indian-Océanie. Et cette année, par exemple, la rencontre des évêques d'océan Indien se fera à l'île de la Réunion. Et je vous donne une information qui montre que la Réunion n'est pas seulement, je dirais, en océan Indien et qu'elle rayonne bien ailleurs. En 2015, le rassemblement, la rencontre du Conseil général de toute la congrégation de Cluny se fera à La Réunion avec les représentants de Cluny du monde entier. Et la supérieure de la congrégation de Cluny s'appelle Claire Waroux, dont la famille vient de La Réunion, qui a été aux Seychelles. On est allé chercher une Seychelloise comme supérieure général de Cluny. Si ça, ce n'est pas l'Église, je ne vois pas ce que c'est. Donc, il y a cette dimension, et la dimension pastorale revient chaque fois. Les groupes, la préparation de l'avancée d'oie, la reprise par les évêques, le retour vers le diocèse. Et faut-il une consultation pour reprendre l'exhortation apostolique du pape François? Je crois qu'il ne faut pas se disperser. Parce que si nous lançons des chantiers sur chantier, on ne va pas progresser. Et l'obéissance au réel m'oblige à moi, évêque, de prendre conscience que je vieillis, que mes os craquent, que je suis moins souple dans mon organisme, mais peut-être plus souple sur les idées, tout en étant ferme et, hélas, parfois cassant. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que l'exhortation apostolique du pape François doit nous irriguer en permanence. Parce qu'il a son style foisonnant, il a son langage paradoxal, et ça se recoupe, il revient, il repart. À mon avis, il faut avoir bien en tête la trame de cette exhortation apostolique. Vous qui êtes là et qui êtes des privilégiés en quelque sorte, il faut la lire. Et nous la reprendrons, cette exhortation, sous l'angle du témoignage, sous l'angle des témoins, sous l'angle de ceux qui sont déjà sur le terrain, qui sont dans les équipes d'animation, qui sont dans les conseils de pastoral, et nous reprendrons cela au niveau du conseil diocésain de pastoral. Parce que il y a déjà le chantier sur la famille, sur les familles. La commission diocésaine de pastoral familial travaille là-dessus. Nous avons eu le passage de Xavier Lacroix qui a donné des conférences publiques. Au tampon, il a fait 400 personnes. Bon, une journée pour les prêtres, des journées CPM, AFC, préparation au mariage, association familiale catholique, catéchiste. On ne va pas se disperser. On continue à creuser ce chantier, le chantier famille. Dieu sait s'il est important, puisque nous avons fin d'année le synode sur la famille, et on aura un deuxième synode en 2015 sur la famille, et c'est après 2015 que nous aurons les conclusions des deux synodes avec les incidences pastorales, qui sont déjà amorcées dans l'exhortation apostolique du pape François.
Merci Gilbert. tranquillement, nous avons 6-7 minutes pour quelques réactions, quelques questions, manière d'approfondir tout cela.
Oui, je ne sais pas si je serai dans la lignée de ce qui vient d'être dit comme question ou comme préoccupation. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est sortir pour mieux connaître, pour se connaître, pour découvrir aussi. Et en me souvenant d'un certain nombre de choses que j'ai vécues, notamment dans l'Église Monde, les communautés, je rêve, mais je rêve encore. Je me dis, une occasion de vivre, de découvrir, ce serait peut-être que dans nos églises, pendant la messe, nous nous donnions 5 minutes, allez, 10 minutes, où, à un moment donné, nous échangions entre nous. Nous partageons sur les questions. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui est important sur tel ou tel point? Alors, bien sûr, ce serait assez surprenant, ce type d'attitude. Mais que, dans l'Église, pendant la messe, nous soyons proches du vécu, de la vie, du partage. Et à ce moment-là, peut-être que nous découvrirons que telle ou telle personne qui est assise à côté de nous pendant toute la messe, que nous n'avons pas forcément connu, puisque nous ne la connaissions pas. Et nous allons peut-être découvrir quelque chose pendant ces 5 ou 10 minutes de cette personne. Et à ce moment-là, un autre regard sur la personne, sur la vie, sur notre être et ce que nous pouvons faire. Alors, sortir pendant qu'on est à l'église, c'est déjà un premier pas peut-être.
Le pape François nous exhorte à sortir. Et Monseigneur vient de nous dire qu'il ne faut pas qu'on s'égare. Donc j'ai bien écouté qu'il faut qu'on sorte sur l'exhortation du pape François. Et en même temps, je viens d'écouter aussi ce que Monseigneur vient de nous dire, qu'il ne faut pas qu'on s'égare. Alors,
se disperser.
Excusez-moi, effectivement, se disperser. Et donc, moi, ce que je souhaiterais savoir ou comprendre, si il ne faut pas qu'on se disperse, mais qu'il faut qu'on sorte, comment faire pour faire de la proximité, nous, en tant que déjà convaincus, entre guillemets, pour aller vers les autres? Puisqu'on dit toujours que, ben, je vais faire un petit peu comme tout le monde, hein, les politiciens ne sont pas dans la proximité. Ah oui, je ne serai pas proche de nous, etc. C'est ce qu'on entend tout le temps. Bon, moi, je ne veux pas trop mélanger la politique, mais c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais moi, si je dois sortir et que je dois aller, comme on me le demande, comme me demande le pape, vers mon camarade, mon ami, comment faire pour que je sois proche? Puisqu'il ne faut pas non plus que je sois dispersé ou qu'on soit dispersé. C'est ce que je viens de retenir sur les deux questionnements et la réponse de Monseigneur.
Merci. Le temps pour une troisième intervention éventuellement. Sinon, je donne la parole à Monseigneur.
Je pense qu'il est important de bien avoir dans le cœur et dans notre tête que l'Église, c'est pas seulement lorsque nous sommes rassemblés dans le bâtiment, mais que l'Église, c'est partout où nous nous trouvons. Et il y a le moment où la communauté chrétienne, elle est rassemblée, et le moment où la communauté chrétienne est disséminée. C'est des semences qui sont envoyées partout. Alors, il ne s'agit pas d'aller prendre un drapeau catho d'abord et de dire « Moi, je suis catholique, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes dans l'erreur, venez avec nous. » Ça, c'est des manières de faire qui ne doivent pas être les nôtres. Mais vous habitez peut-être dans une maison à terre ou bien dans un immeuble, vous êtes dans un quartier. Dans cet immeuble, bon, il doit y avoir un syndic, il doit y avoir quelqu'un, là, comment on appelle ça, je cherche, à l'entrée, un concierge. Bon, la relation au concierge, la relation aux autres, avec les problèmes qui se posent dans l'immeuble ou autour de l'immeuble, eh bien, il faut avoir la relation avec le syndic, avec le concierge, avec les autres, et puis voir comment humaniser et faire qu'on puisse se rencontrer. Là, je vois ici ou là, on a lancé des jardins familiaux auprès, au pied de certains immeubles. Eh bien, si les habitants de l'immeuble s'approprient cette idée de jardin familial, ils disent ça, c'est notre jardin. Nous verrons notre maman, nous verrons notre jeune, nous allons planter ça ensemble, nous va veiller dessus. C'est la meilleure manière de faire la police. C'est-à-dire, on devient responsable ensemble, ou ils ne touchent pas ou ne cassent pas. Dans la cage de l'escalier, pareil. Et puis, il y a peut-être une association de quartier. Donc, rentrer, être avec, non pas pour dire voilà, nous verrons tout ce monde-là l'église d'abord, c'est pas ça, mais pour dire que nous avons quelque chose à faire passer, cet amour que nous en avons jusqu'à la miséricorde là, et voilà, nous l'est avec. Peut-être dans un syndicat, peut-être un engagement politique dans un parti politique, pour faire passer un certain nombre d'idées. Quand je suis devenu évêque, il y en a qui m'ont dit qu'il faut faire un parti chrétien. J'ai dit on ne fait pas de parti chrétien. Les chrétiens sont partout. Et par conséquent, là où ça se tient, fais passe l'amour de Jésus. Fais passe ça. Et ben, dans beaucoup d'associations, on a des chrétiens. S'il n'y a pas d'association pour ceci ou pour cela, à ce moment-là, oui, prends l'initiative de aller redotte, mettre ensemble, faire avancer ensemble. Et là, mine de rien, l'agneau évangélise. Jésus l'a pas dit à nous, nous serons la majorité. Jésus l'a dit à nous, vous êtes la lumière et le sel de la terre. S'il ne fait une marmite rien qu'avec de sel dedans, là, pas bon. Et dans notre carré, il faut mettre juste le sel qu'il faut.
Juste la quantité. Quatrième thème. Dans l'invitation que le pape François adresse à nos communautés, au numéro 108, il émet un vœu. J'espère, dit-il, qu'elles tiendront compte que chaque fois que nous cherchons à lire les signes des temps dans la réalité actuelle, il est opportun d'écouter les jeunes et les personnes âgées. Plus largement, c'est aux pauvres que le pape nous renvoie tout au long de sa lettre. Et dès le numéro 2, donc le deuxième paragraphe, dès le départ, où il stigmatise leur absence quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts. Au numéro 48, il s'exclame « Ne les laissons jamais seuls !» Et au paragraphe suivant, numéro 49, il ajoute « Tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ. Sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Jeunes, personnes âgées, pauvres, pauvres aux visages très divers, cette première énumération laisse entrevoir une communauté chrétienne qui fait place à tous et qui surtout choisit d'être composée à partir de toute cette diversité. L'image qui peut nous venir à l'esprit est moins celle de l'arche de Noé que celle du radeau de la Méduse. D'autant que notre contexte économique marqué par l'exclusion et la disparité sociale, rejoint plus directement l'image du radeau. Et que le pape parle
d'une économie qui tue, ce sont ses mots, et qui fait des exclus, et ça c'est encore ses mots, terribles, des déchets, des restes. Dans un tel contexte, Monseigneur, vers quelle vision renouvelée de nos communautés pouvons-nous nous diriger? Et pour répondre à cette question, y a-t-il à tenir compte de ce que le pape nous dit de la culture populaire? Et je cite au numéro 68, une culture populaire évangélisée contient des valeurs de foi et de solidarité qui peuvent provoquer le développement d'une société plus juste et croyante, et possède une sagesse propre qu'il faut savoir reconnaître avec un regard plein de reconnaissance.
Justement, la culture populaire n'est pas le radeau de la Méduse. Et j'ai déjà répondu sur ce point, je ne reviendrai pas. Ce n'est pas le radeau de la Méduse. Les paroles du pape François nous provoquent, nous invitent à aller plus loin. Et il a, dans le cœur et dans la tête, et il n'y a qu'à voir, je dirais, comment il a mené le dernier consistoire, c'est toute cette dimension sud-américaine, tous ces peuples latino-américains qui sont sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise, je dirais, d'un capitalisme sauvage, un capitalisme sauvage qui est à travers le monde entier. Il a tout ça en tête. Nous, ici, à La Réunion, on a notre culture populaire, il y a ce brassage permanent. Nous ne sommes pas suffisamment attentifs aux jeunes. Les personnes âgées, notre population vieillit, et il y a un mouvement qui s'appelait Vie montante et qui aujourd'hui s'appelle Mouvement chrétien des retraités. Ce mouvement vient de renouveler son bureau et il a à prendre une place beaucoup plus forte dans toutes nos paroisses et dans l'ensemble du diocèse parce que notre population va vieillir. Maintenant, nos jeunes doivent être notre préoccupation fondamentale parce que c'est notre richesse. Et je relisais ces jours-ci ce que j'avais écrit en 1981-85 sur économie et politique. Nous avons construit à La Réunion, et depuis le début, une économie coloniale en fonction de la métropole. Nous sommes passés du café au sucre pour les besoins de la métropole. Et ensuite, nous sommes passés à l'économie de comptoir avec une super consommation. Et il y en a qui disent « La Réunion coûte cher à la France ». Je remarque que là, déjà, on est en train de rejoindre le langage classique. La Réunion, c'est La Réunion. La France, se résumerait à l'Hexagone. Point d'interrogation. Mais nous avons été piégés et nous nous sommes piégés nous-mêmes, réunionnais, en nous basant sur cette consommation, sur cette économie de comptoir. Et si nous n'avons pas conscience de former un peuple ensemble, nous ne sommes que des cornichons dans un bocal ou un peuple de trouloulous à roulette avec la bouche ouverte et qui consomme. Et il nous faut évoluer dans nos modes de vie, dans nos habitudes de consommation. Et si on paye les loisirs, si on paye du superflu, pourquoi ne pas payer nos agriculteurs et nos éleveurs? Et pourquoi ne pas favoriser justement tout ce qui est nécessaire à la consommation locale? Je ne suis pas là un nostalgique de la case en paille et de la lampe à pétrole. et je suis dans l'admiration devant la capacité de recherche des Réunionnais avec, hélas, une université qui est à la traîne et qui dégringole, hein, et qui devrait être davantage branchée sur les besoins de la Réunion et l'ouverture sur l'océan Indien. Mais quand je vois toutes les recherches au niveau de l'énergie verte, quand je vois la recherche en production d'électricité à partir des houleaux motrices, de la mer, quand je vois les recherches qui se font dans le domaine du bâtiment, mais je suis en admiration devant les capacités des Réunionnais. Et chaque fois que la Réunion a franchi une étape, elle a pu franchir cette étape sous le choc d'événements internationaux ou nationaux. Mais c'est à partir de la Réunion que nous avons répondu. Et par conséquent, nous sommes arrivés maintenant à un seuil où nous aurons moins de transferts, nous aurons moins d'argent, à moins que des capitaux qui viennent de Chine ou qui viennent des Émirats arabes ne rentrent à la Réunion. Mais je préfère avoir des capitaux qui soient réunionnais. Et qu'est-ce qui est encore réunionnais aujourd'hui, du point de vue capitaux? Je préfère les capitaux français, les capitaux européens, et puis pourquoi pas, oui, recevoir d'autres capitaux. Mais vous voyez les questions que ça pose là? Est-ce que nous sommes prêts, nous, qui vivons à la Réunion, nous, réunionnais, à dire il faut que le maximum de décisions fondamentales soient prises à la Réunion et que nous raisonnions en fonction de ceux qui vivront en priorité ici, mais qui sont aussi appelés à partir et à venir. Ne nous enfermons pas sur nous-mêmes. Développons notre identité métisse zambrocale et en même temps maîtrisons les technologies pour nous ouvrir sur l'Indienne Océanie et sur le monde. Quand vous allez voir sur le site internet réunionnais du monde, regardez tous ceux qui sont dans le monde. Ça veut dire que nous avons les capacités pour pouvoir prendre en main nos affaires ici. Et le disant, certains pensent que je suis indépendantiste, et pourquoi pas à l'horizon, je ne sais pas combien, quand je serai mort dans un siècle ou je ne sais pas combien. Mais il n'y a pas besoin d'être indépendantiste. Avec ce dont nous disposons, avec ce que nous vivons, il y a moyen, justement, en se disant, mais nos jeunes là, avec ce que nous développons comme style de vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ce que nous produisons, comment l'exporter si ailleurs on ne peut pas l'acheter? Donc vous voyez, c'est complexe, je n'ai pas la réponse. J'ai une conviction, il faut qu'on devienne responsable.
Il y a Vara qui a déjà levé la main.
Peut-être il peut y avoir une appropriation spécifique de la parole de Dieu par chaque diocèse, un approfondissement de la parole de l'Évangile et les défis de l'Évangile. Et donc chaque diocèse, est-ce qu'il n'est pas appelé à répondre à ces défis d'une façon particulière? Et puis dans le monde, dans différents diocèses dans le monde, il y a eu des synodes qui ont examiné à leur niveau comment ils peuvent répondre à la parole au défi de l'Évangile et peut-être ont proposé des méthodes de manière de vivre l'Évangile d'une façon pas spectaculaire, de façon très approfondie pour pouvoir attirer les personnes à la joie de l'Évangile. Parce que si, dans les chapitres 2 et 4 des Actes des Apôtres, les personnes à cette époque, quelques centaines de personnes, pouvaient vivre d'une façon extraordinaire à l'admiration des personnes qui les entouraient, pas de la même façon, il peut y avoir pour chaque diocèse de vivre l'Évangile, de rencontrer les défis de l'Évangile et proposer des manières de vivre pour attirer les personnes, parce que c'est une manière de propager la parole de Jésus qui nous appelle à vivre plus humainement et ainsi plus divinement.
Vous êtes bien sage ce soir. Hein, le sujet est trop sérieux. Pardon.
Merci. C'est un lien entre la question que je voulais poser précédemment et celle qui vient avec le contexte. Le pape et vous, finalement, vous insistez beaucoup et vous nous aidez à comprendre ce en quoi la responsabilité d'être chrétien concerne notre vie dans son entier et pas simplement nos convictions, ou pas simplement nos convictions religieuses, mais nos convictions sociales, nos convictions dans l'intérêt pour les autres, nos convictions dans l'intérêt pour l'environnement, pour la solidarité, pour peut-être pour faire évoluer même notre façon de vivre, et pas simplement c'est pas simplement une exhortation à la prière finalement qu'on entend ce soir, mais une exhortation à une vie partagée. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'Église se rassemblait dans ces lieux de rassemblement que sont les paroisses, et qu'ensuite les chrétiens allaient chez eux au cours de leurs engagements, de leur vie professionnelle, de leur vie de voisinage, de quartier, etc., vivre leur vie de chrétien, et que ça c'était déjà essentiel. Moi je me demande quand même si l'Église n'a pas aussi à aider les chrétiens à être socialement responsables ensemble. Et alors, comme ceux qui me connaissent savent qu'on débarque à La Réunion, on ne connaît vraiment ni personne, ni les habitudes de vie, ni celles des paroisses, ni celles des familles. Mais en métropole, on a observé à maintes reprises que la difficulté des chrétiens qui se retrouvent à la messe le dimanche et qui ne se sentent pas forcément soutenus ou reconnus dans leur vie chrétienne tous les jours, parce que les invitations, des prêches, la liturgie est très centrée sur des formes très particulières de la vie religieuse, l'adoration, la spiritualité, des formes d'expression de la foi qui sont compréhensibles, mais que chacun a un peu du mal à vivre au quotidien. Et on n'est pas forcément soutenu dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chrétien engagé, dans notre vie de chrétienne tous les jours, dans notre vie de chrétien qui s'intéresse au monde, à l'environnement. Et je me demande s'il ne faudrait pas que les prêtres et les communautés, les paroisses, aident plus les chrétiens à comprendre ce en quoi la vie de tous les jours est essentielle, elle est belle, elle est chrétienne, elle est lumineuse, et que ce n'est pas simplement avec des mots de la foi et de la religiosité qu'on arrive à se tourner vers Dieu.
C'est bien dans ce sens-là qu'il faut partir, et nous faisons le lien à ce moment-là entre vie, évangile, homélie. Et le pape François insiste sur la préparation de l'homélie. Dans des rencontres avec les prêtres et en réunion de doyennés, c'est-à-dire de secteurs géographiques, en maintes fois, on a proposé que, bon, il y a la relation avec le conseil de pastoral, le paroissial, mais pourquoi pas avoir une équipe d'homélie. C'est-à-dire, le prêtre est invité à se retrouver avec un certain nombre de personnes. On repère dans la presse ou dans le quartier des questions, voilà, qui sont importantes. Je sais, par exemple, dans une paroisse, il y a eu l'incendie d'une maison et il y a une équipe de préparation d'homélie. Ils ont pris cet exemple-là pour interpeller sur la solidarité. C'est-à-dire, l'actualité est intégrée à la prière universelle. Et si l'on fait une procession d'offrande, ben normalement, la procession d'offrande doit refléter aussi la vie. Nous avons eu la belle fête de la foi à Brabannon pour la clôture de l'année de la foi qui ouvrait en même temps l'année de l'espérance. Je trouvais ça formidable parce que c'était préparé en relation avec la vie. Mais je retiens l'expression « être socialement responsable ensemble ». Je trouve qu'il est nécessaire d'avoir des lieux comme le centre Saint-Idias, les petites écoles de la foi qui sont dans les différents secteurs, qui se développent, le service diocésain de formation permanente, un mouvement comme la CI qui n'est pas suffisamment développé, le mouvement chrétien des cadres. Tout ça constitue des groupes autour desquels il n'y a pas suffisamment, je dirais, d'informations, mais c'est à travers des groupes qui permettent aux personnes qui partagent un peu le même niveau de responsabilité et qui se retrouvent qu'on pourrait développer cette dynamique. Nous avons l'enseignement catholique. On oublie cette dimension et Dieu sait si elle est importante. Il y a un projet pastoral, CAP sur 2015, et en 2015, nous devons avoir les assises de l'enseignement catholique à La Réunion avec la venue du secrétaire général de l'enseignement catholique. Mais tout ça est chevillé aussi avec l'ISFEC, l'Institut supérieur de formation d'enseignement catholique à La Réunion, qui délivre deux masters éducation enseignement et une licence de philo avec l'Université catholique de l'Ouest, et on souhaite monter en charge avec le supérieur pour pouvoir développer cette dimension de l'enseignement social de l'Église. Et que l'enseignement social de l'Église passe aussi à travers les responsables, et les responsables artisans, des responsables chefs d'entreprise. On est en train de réfléchir là-dessus, mais ça nous manque et il faut qu'on développe ça. Je n'ai pas totalement répondu à la question de Daniel tout à l'heure, parce qu'il y avait plusieurs questions qui s'enchaînaient. Pendant la messe, arriver à, je dirais, à s'arrêter, à dire qui l'on est, ça paraît, ou bien ce que l'on vit, ça paraît difficile dans une grande assemblée. Parce que les gens n'ont pas nécessairement envie de partager ce qu'ils portent en eux de drames ou de questions. L'espérance, c'est plus facile. Mais quand on est dans des drames familiaux, quand on est victime de ceci ou de cela, on ne va pas parler. Par contre, dans un petit groupe, c'est possible. Et pourquoi pas, je sais qu'il y a des prêtres qui le font dans les paroisses, ne pas toujours célébrer dans l'église principale, mais célébrer dans des petits groupes, dans des quartiers. Et ça permet parfois de se dire les choses. Il y a des paroisses aussi qui ont pris, c'est très rare, mais ça existe, qui ont pris l'habitude, de, par exemple, tous les 15 jours, les 3 semaines, offrir un café. Et on reste là. On prend le café, on parle et ça permet de repérer, de se dire des choses. Et puis il y a l'accueil des nouveaux arrivés. L'accueil des nouveaux arrivés, ça c'est important. Pas seulement au seuil de l'église pour la messe, mais avoir des, entre guillemets, des têtes chercheuses, des personnes qui sont dans les quartiers et qui repèrent et qui peuvent inviter. Et il y a une paroisse qui a pris l'initiative de regrouper ceux qui viennent d'arriver, de dire vous venez d'arriver, venez, on va vous mettre en relation avec les autres si vous le souhaitez. On a transmis des invitations. Alors, le pape François, il nous bouscule. Parfois, il peut nous faire croire que c'est le radeau de la Méduse. Mais le principe de réalité fait que moi, en tant que pasteur, je ne peux pas appuyer tout le temps sur l'accélérateur parce que il faut pouvoir aussi accompagner les brebis. Et il faut laisser les brebis marcher à leur pas. Je peux avoir un super plan dans ma tête ou des super idées, comme je suis en train de vous dire, concernant la responsabilité et la responsabilité à La Réunion. Mais les ouvriers de l'évangile, ils sont sur le terrain comme ils sont. Le prêtre, il est tel qu'il est. Les religieuses sont telles qu'elles sont. Les catéchistes sont tels qu'ils ou qu'elles sont. Et par conséquent, il faut que tout ce monde-là évolue bon, à sa vitesse. Et il vaut mieux marcher en boitant plutôt que d'avoir de grandes idées que les autres ne peuvent pas suivre et puis ils s'asseyent parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Mais moi, je constate qu'on avance. Et je préfère insister et de dire à l'enfant ou de dire aux autres, mais tu vois, tu es capable de marcher. Et même si tu tombes, tu peux te relever. Et même si je tombe, eh ben, tu vas essayer de me relever. Et puis faisons qu'on arrive à s'entraider pour se relever ensemble et continuer à marcher. Merci.
Merci, Monseigneur. On va passer à la trappe, le dernier thème, puisqu'il a été en fait abordé en grande partie dans les dernières interventions et que nous sommes à quelques minutes du tempo final. Donc, ne jouons pas les prolongations. Par contre, l'occasion de se dire que nous avons été heureux, évidemment, d'échanger ensemble, que le but bien affirmé de cette rencontre, c'est aussi, comme tu l'as rappelé plusieurs fois, eh bien, de nous inciter à prendre le temps de lire, de réfléchir, de méditer à partir de cette exhortation apostolique qui franchement se lit bien parce que, j'ajouterai, par rapport à des encycliques souvent un petit peu ardues, on a plus un discours de pasteur avec des images, etc. Pour vous faciliter les choses, puisqu'il n'y en avait plus à la Rhodes, ils ont fait une commande, mais de nouveau il n'y en a plus, nous sommes procurés quelques numéros, il y en a encore sur la table, à 5 euros. Il me reste à remercier tous ceux qui se sont déplacés. Merci, Monseigneur, d'avoir été parmi nous. Et je vous dis au revoir et à notre prochain mardi.